Pinocchio par Carlo Collodi, troisième cassette, deuxième face, page 130. Chapitre 21, Pinocchio est pris par un paysan qui l'oblige à faire le chien de garde devant son poulailler. Vous pensez bien que Pinocchio se mit à pleurer, à crier, à se recommander à Dieu. Mais c'était là des pleurs et des cris inutiles, car aux alentours, on ne voyait pas de maison, et dans le chemin, il ne passait pas âme qui vive. Cependant, la nuit vint. La souffrance causée par l'étreinte du piège qui lui coupait les jambes et aussi, disons-le, la peur de se trouver seul dans l'obscurité, ravirent bientôt toutes les forces du pantin, tant et si bien qu'il fut sur le point de s'évanouir. Soudain, il vit passer une luciole au-dessus de sa tête. Une luciole, c'est une petite mouche lumineuse. Il l'appela et lui dit « Petite luciole, fais-moi la charité de me délivrer ». « Pauvre enfant, répartit la luciole en s'arrêtant à pitoyer, comment as-tu pu faire pour rester les jambes tenaillées dans ces fers tranchants ?»
Je suis entré dans ce champ pour cueillir deux grappes de ce raisin et... Ce raisin est-il à toi ? Non. Qui t'a appris à t'octroyer le bien d'autrui ? J'avais faim. La faim, mon enfant, n'est pas une raison pour s'approprier le bien d'autrui. C'est vrai, c'est bien vrai, gémit Pinocchio. Une autre fois, je ne le ferai plus. À ce moment, le dialogue fut interrompu par un tout petit bruit de pas qui approchait. C'était le propriétaire du champ qui venait voir sur la pointe des pieds si quelqu'une des fouines qui dans la nuit mangeaient ses poules avait été prise dans le piège. Son étonnement fut grand quand, tirant sa lanterne de sous son manteau, il constata qu'au lieu d'une fouine, c'était un gamin qui était pris. « Ah, vilain voleur !» dit l'homme en colère. « C'est donc toi qui emportes mes poulets ?»«
Moi ? Oh, que non !» cria Pinocchio en sanglotant. « Je suis entré dans ce champ que pour prendre seulement deux grappes de raisin. »
« Qui vole le raisin est bien capable de voler aussi des poulets. Attends un peu et je te donnerai une leçon dont tu te souviendras longtemps. »
Il ouvrit le piège, saisit Pinocchio par le cou et le transporta chez lui aussi facilement qu'il eût transporté un petit agneau. Quand il fut arrivé devant la grange, l'homme jeta à terre Pinocchio et lui mettant un pied sur l'épaule, lui dit
« Maintenant, il est tard et je vais aller me coucher. Nous réglerons nos comptes demain. En attendant, comme mon chien de garde est mort aujourd'hui, tu vas prendre son poste. »
Là-dessus, il passa autour du cou de Pinocchio un gros collier garni de pointes de cuir et le lui serra fortement pour qu'il ne puisse pas l'enlever. Au collier était attachée une longue chaîne de fer et la chaîne était fixée au mur.
Si cette nuit, dit l'homme, il commençait à pleuvoir, tu pourrais te coucher dans cette niche de bois où il reste encore de la paille qui a servi de lit pendant 4 ans à mon pauvre chien. Et dans le cas où des voleurs surviendraient, dresse l'oreille et aboie. »
Sur ce dernier avertissement, le paysan rentra chez lui, ferma la porte avec plusieurs cadenas, cric, crac, cric, crac, tandis que le pauvre Pinocchio restait couché devant l'entrée, plus mort que vif, tant il avait froid, peur et faim. De temps en temps, il essayait d'arracher avec ses mains le collier qui lui serrait la gorge et il gémissait.
« Me voilà bien. Ah oui, me voilà bien. J'ai voulu faire l'effronté, le vagabond. J'ai voulu suivre la mauvaise compagnie et la malchance me poursuit toujours. Ah, si j'avais été un bon enfant comme il y en a tant, si j'avais eu le courage d'étudier et de travailler, si j'étais resté chez mon pauvre papa, je ne serais pas ici maintenant au milieu des champs à faire le chien de garde à la porte d'un paysan.
Ah, si je pouvais naître une seconde fois, mais maintenant, il est trop tard. Prenons patience. » Après ces lamentations qui étaient sorties du fond du cœur, il entra dans la niche et s'endormit. Chapitre 22. Pinocchio découvre les voleurs et en récompense de sa fidélité, il est remis en liberté. Il y avait déjà plus de 2 heures qu'il dormait avec délices, quand vers minuit, il fut réveillé par des murmures et le chuchotement de petites voix étranges qui lui semblaient venir du côté de la grange. Pinocchio sortit la pointe de son nez par l'ouverture de la niche et vit, réunis en conseil, 4 bêtes aux poils sombres qui ressemblaient à des chats. Mais ce n'étaient pas des chats, c'étaient des fouines, petits animaux carnivores qui aiment à manger des œufs et des poulets tendres. Une de ces fouines, se séparant de ses compagnes, se dirigea vers la niche et dit à voix basse « Bonsoir, Ménélas !»«
Je ne m'appelle pas Ménélas, » répondit le pantin. « Qui donc es-tu ? » ?»«
Je suis Pinocchio. » »«
Et que fais-tu ? » ?»«
Je fais le chien de garde. » »«
Mais où est Ménélas ? Où est le bon vieux chien qui veillait dans cette niche ?»«
Il est mort ce matin. » »«
Mort ? »
La pauvre bête, dit la fouine, c'était un si bon chien.
À en juger par ta physionomie, toi aussi tu es un brave chien.
Mais je te demande pardon, je ne suis pas un chien.
Qui donc es-tu ?
Je suis un pantin.
Et tu fais le chien de garde ?
Hélas, pour ma punition.
Eh bien, je te propose de t'entendre avec moi comme je m'entendais avec ce pauvre Ménélas. Tu n'auras pas à t'en plaindre.
Et de quelle entente s'agit-il ?
Nous viendrons une fois par semaine, comme par le passé, visiter la nuit ce poulailler. Nous emporterons 8 poulets. Nous en mangerons 7 et nous t'en donnerons 1. À la condition, bien entendu, que tu fasses semblant de dormir et qu'il ne te vienne pas à l'idée d'aboyer et de réveiller le paysan.
C'est donc ainsi que faisait Ménélas ? Demanda Pinocchio.
Il faisait ainsi et nous et lui, nous étions toujours d'accord.
Dors donc tranquillement et sois sûr qu'avant de partir d'ici, nous laisserons sur ta niche une belle poule toute plumée pour ton déjeuner de demain. Sommes-nous bien d'accord ?
Même trop bien, répondit Pinocchio, qui hocha la tête d'un air menaçant comme pour dire « D'ici peu, nous en causerons. »
Quand les 4 fouines se crurent sûres de leur fête, elles allèrent tout droit dans le poulailler, qui était précisément à côté de la niche du chien, ouvrirent à coups de griffes et de dents la porte de bois qui en fermait l'entrée et s'y glissèrent l'une après l'autre. Mais elles étaient à peine entrées qu'elles entendirent la petite porte se refermer violemment. C'était Pinocchio qui l'avait fermée. Et non content de l'avoir fermée, pour plus de sécurité, il porta devant une grosse pierre pour bien la caler. Puis il se mit à aboyer.
Ouh, 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 ouh.
Il aboya tout comme un chien de garde. À ses aboiements, le paysan sauta du lit, prit son fusil et se montra à la fenêtre. Il demanda « Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ?»«
Ce sont les voleurs !»
répondit Pinocchio.
« Où sont-ils ? » ?»«
Dans le poulailler !»«
Bon, je descends !»
Et vraiment, en moins de temps qu'il ne faut pour dire « Amen », le paysan descendit. Il entra rapidement dans le poulailler et après avoir attrapé et fourré dans un sac les 4 fouines, il leur dit tout joyeux.
« Enfin, vous voilà donc tombés entre mes mains. Je pourrais vous punir, mais je ne suis
pas si méchant. Je me contenterai de vous porter demain à l'hôtelier du village, qui vous dépouillera, vous enlèvera la peau et vous fera cuire comme des lièvres. C'est un honneur que vous ne méritez pas, mais les braves gens comme moi n'y regardent pas de si près. » Puis, s'approchant de Pinocchio, il le caressa et lui dit entre autres choses. « Comment as-tu pu découvrir le complot de ces quatre voleurs et dire que Ménélas, mon fidèle Ménélas, ne s'était jamais aperçu de rien ?» Pinocchio aurait pu raconter tout ce qu'il savait, c'est-à-dire les pactes honteux qu'avait passé le chien avec les fouines. Mais il se rappela que le chien était mort et il se dit « À quoi bon accuser les morts? Les morts sont bien morts et ce qu'on peut faire de mieux, c'est de les laisser en paix. » Mais le paysan lui demanda « À l'arrivée des fouines dans la grange, dormais-tu ou étais-tu éveillé ?» « Je dormais, » répondit Pinocchio, « mais les fouines m'ont réveillé avec leur chuchotement et l'une d'elles est venue jusqu'à la niche pour me dire « Si tu promets de ne pas aboyer et de ne pas réveiller ton maître, nous te ferons cadeau d'une belle poularde toute plumée. » Vous comprenez ? Elle avait l'audace de me faire à moi, Pinocchio, une pareille proposition. Il faut bien vous dire que tout pantin que je suis, avec tous les dépôts du monde, je ne m'abaisserai pourtant jamais jusqu'à m'entendre et pactiser avec les malhonnêtes gens. « Tu es un bon garçon !» s'écria le paysan en lui tapant sur l'épaule. « Tes sentiments te font honneur et pour te témoigner ma satisfaction, je te permets dès maintenant de retourner chez toi. » Là-dessus, il le débarrassa de son collier de chien. Chapitre 23. Pinocchio pleure la mort de la belle jeune fille aux cheveux bleus. Il rencontre un pigeon qui le transporte au bord de la mer, et là, il se jette à l'eau pour venir en aide à son papa Geppetto. Dès que Pinocchio ne sentit plus à son cou le poids très lourd et humiliant du collier, il s'enfuit à travers les champs. Il ne s'arrêta pas avant d'avoir rejoint la grande route qui devait le conduire à la maison de la fée. Arrivé sur la grande route, il se retourna pour examiner la plaine et reconnut la forêt où il avait eu le malheur de rencontrer le renard et le chat. Parmi les arbres, il aperçut le sommet du grand chêne où il avait été pendu, mais il eut beau regarder de tous côtés, il lui fut impossible de retrouver la petite maison de la belle jeune fille aux cheveux bleus. Il eut alors un triste pressentiment et se mit à courir de toutes les forces qui lui restaient. En quelques minutes, il arriva au pré où s'élevait autrefois la petite maison blanche. Mais la petite maison blanche n'y était plus. Sur une dalle de marbre, on lisait gravée cette douloureuse inscription. « Si gît la jeune fille aux cheveux bleus, morte de chagrin, pour avoir été abandonnée par son petit frère Pinocchio. » Je vous laisse à penser dans quel état resta Pinocchio lorsqu'il eut réussi à déchiffrer tant bien que mal cette inscription. Il se jeta la face contre terre et couvrant de 1000 baisers cette pierre mortuaire, il éclata en sanglots. Toute la nuit, il pleura. Le lendemain matin, au lever du jour, il pleurait encore, si bien qu'il avait tari la source de ses larmes. Ses cris étaient si perçants que toutes les collines des environs en répétaient l'écho. Tout en pleurant, il disait « Oh, ma chère petite fée, pourquoi es-tu morte? Pourquoi ne suis-je pas mort à ta place, moi qui suis si méchant, et toi qui étais si bonne? Et où est maintenant mon pauvre père? Oh, bonne fée, dis-moi où je peux le retrouver, car je veux toujours rester avec lui
et ne plus le quitter jamais, jamais, jamais. Oh, ma chère petite fée, dis-moi que tu n'es pas morte. Si vraiment tu m'aimes, si tu aimes ton petit frère, revis. Revis comme tu vivais auparavant. N'as-tu pas peine à me voir seule, abandonnée de tout le monde? Si les brigands revenaient, ils m'attacheraient de nouveau à la branche du chêne, et alors je mourrais pour toujours. Que veux-tu que je fasse maintenant seul dans ce monde? Maintenant que je vous ai perdu, toi et mon papa, qui me donnera à manger? Où irai-je dormir la nuit? Qui me fera un habit neuf? Ah, il vaudrait bien mieux, 100 fois mieux que je meure moi aussi. Oui, je veux mourir. Tout en se lamentant ainsi, il faisait mine de s'arracher les cheveux. Mais comme ses cheveux étaient de bois, il n'eut pas la satisfaction d'y passer les doigts. À ce moment-là, vola au-dessus de lui un gros pigeon qui s'arrêta, les ailes déployées, en faisant et lui cria d'une grande hauteur : Que fais-tu là, mon enfant ? Tu vois bien que je pleure, répondit Pinocchio en levant la tête vers la voix et en se frottant les yeux avec la manche de son habit. Dis-moi, ajouta le pigeon, ne connaîtrais-tu pas par hasard, parmi tes camarades, un pantin qui se nomme Pinocchio ? Pinocchio ? Tu as dit Pinocchio ? Répéta le pantin en se remettant vite sur ses pieds. Pinocchio, c'est moi ? À cette réponse, le pigeon vint se poser à terre. Il était plus gros qu'un dindon. Connaîtrais-tu aussi Geppetto, par hasard ? Demanda le pigeon au pantin. Si je le connais, mais c'est mon pauvre papa. Il t'a peut-être parlé de moi. Conduis-moi auprès de lui. Est-il toujours vivant ? Réponds-moi, par charité, est-il toujours vivant ? Je l'ai laissé, il y a 3 jours, au bord de la mer. Et que faisait-il ? Il se fabriquait une petite barque pour traverser l'océan. Le pauvre homme. Voilà plus de 4 mois qu'il court après toi de par le monde. N'ayant pas encore pu te retrouver, il s'est mis dans la tête de te chercher dans les pays lointains du Nouveau Monde. « Et combien y a-t-il d'ici à la mer ?» demanda Pinocchio avec anxiété. « Plus de 1000 kilomètres. »« 1000 kilomètres. Oh, mon pigeon, quelle belle chose que d'avoir des ailes. »« Si tu veux venir avec moi, dit le pigeon, je t'emporte. »« Comment ?»« À cheval sur mon dos. »« Es-tu très lourd ?»« Lourd ? » ?»« Oh non, je suis léger comme une feuille. » Et sans plus attendre, Pinocchio sauta sur le dos du pigeon, passa une jambe de chaque côté, comme font les cavaliers, et s'écria tout heureux « au galop, petit cheval !» Car j'ai hâte d'arriver vite. Le pigeon prit son vol et en quelques instants s'éleva si haut qu'il touchait presque les nuages. Arrivé à cette hauteur extraordinaire, Pinocchio eut la curiosité de regarder derrière lui. Mais il fut pris d'une telle frayeur et d'un tel vertige que pour ne pas tomber, il joignit les bras autour du cou de sa monture ailée. Vers le soir, le pigeon dit « J'ai grand soif. »« Et moi, j'ai grand faim !» ajouta Pinocchio. « Arrêtons-nous quelques instants, dit le pigeon, dans ce pigeonnier, et puis nous repartirons pour arriver demain matin, dès l'aube, au bord de la mer. » Ils entrèrent dans un pigeonnier désert où il n'y avait qu'un petit bassin plein d'eau et un panier de vesses. Les vesses, ce sont des sortes de graines, un peu comme des petits pois. Pinocchio, de toute sa vie, n'avait pas pu souffrir les vesses. À l'entendre, elles lui donnaient mal au cœur et lui retournaient l'estomac. Mais ce soir-là, il en mangea à éclater. Lorsqu'il eut presque fini, il se tourna vers le pigeon et lui dit « Je n'aurais jamais cru que les vesses fussent aussi bonnes. Il faut te persuader, mon enfant,
repartit le pigeon, que lorsque la faim parle et qu'on n'a pas autre chose à manger, même les vesses sont exquises. Les gens affamés ne sont ni gourmets ni capricieux. On fit un léger somme pour se reposer du voyage et puis en route. Le lendemain matin, ils arrivèrent au bord de la mer. Le pigeon déposa à terre Pinocchio et ne voulut même pas entendre parler de remerciements pour la bonne action qu'il avait faite. Il reprit aussitôt son vol et disparut. Sur le rivage, il y avait beaucoup de gens qui criaient et gesticulaient en regardant vers la mer. « Qu'est-il arrivé ?» demanda Pinocchio à une vieille femme.
« C'est un pauvre papa qui, ayant perdu son petit garçon, a voulu monter sur une petite barque pour aller le chercher au-delà des mers. Mais la mer est aujourd'hui très méchante, et la petite barque va être submergée et coulée.
Où est la petite barque ?
La voyez-vous là-bas, juste devant mon doigt ?
Dit la vieille femme en désignant un tout petit bateau qui, à cette distance, avait l'air d'une coquille de noix, dans laquelle se trouvait un homme tout petit, tout petit. Pinocchio dirigea son regard de ce côté et, après avoir examiné attentivement, s'écria avec douleur
« C'est mon papa ! C'est mon papa !»
Et la barque, battue par les vagues furieuses, enfonçait puis surnageait. Pinocchio, perché sur la pointe d'un rocher, n'en finissait pas d'appeler son papa. Il lui faisait force signaux avec ses mains, avec son mouchoir et même avec son chapeau. Or, il arriva que Geppetto, encore qu'il fût très loin du rivage, reconnut son fils, car il leva lui aussi son bonnet, salua et, à force de gestes, fit comprendre qu'il aurait bien voulu revenir en arrière, mais que la mer était trop grosse et qu'il ne pouvait pas ramer pour se rapprocher de la terre. Soudain, survint une vague terrible et la barque disparut. Tout le monde attendit que la barque revînt à flot, mais la barque ne reparut pas. Pauvre homme, s'écrièrent alors les pêcheurs réunis sur la plage. Ils murmurèrent une prière et puis se remirent en route pour regagner leur demeure lorsqu'ils entendirent un cri désespéré. En se retournant, ils aperçurent le pauvre petit garçon qui, du haut de son récif, se jetait dans la mer en criant « Je veux sauver mon papa !» Pinocchio, qui était de bois, flottait facilement et nageait comme un poisson. Tantôt il disparaissait sous l'eau, emporté par la fureur des flots, tantôt il réapparaissait, un bras ou une jambe hors de l'eau, à une très grande distance du rivage. Bientôt, on le perdit de vue et il ne reparut pas. Pauvre enfant, s'écrièrent alors les pêcheurs réunis sur la plage. Ils murmurèrent une prière et s'en retournèrent chez eux. Chapitre 24. Pinocchio arrive dans l'île des abeilles laborieuses. Il y retrouve la fée. Dans l'espoir d'arriver à temps pour secourir son pauvre papa, Pinocchio nagea toute la nuit. Et quelle horrible nuit ce fut! Il plut à torrents, il grêla, il tonna d'une façon épouvantable et certains éclairs étaient effrayants à voir. Vers le matin, Pinocchio aperçut enfin à une petite distance une longue bande de terre. C'était une île en pleine mer. Il fit alors tous ses efforts pour arriver jusque-là, mais ce fut en vain. Les vagues, en se poursuivant et en chevauchant les unes les autres, le ballottaient comme un brin de paille. Enfin, et par bonheur, survint une vague si puissante et si impétueuse qu'elle le jeta d'un seul coup sur le sable du rivage. Le coup fut si violent que dans sa chute, il entendit craquer ses côtes et ses jointures. Mais il se consola vite en songeant, pour cette fois, je l'ai échappé belle. Peu à peu, le ciel se rasséréna, le soleil parut dans toute sa splendeur, et la mer redevint tranquille et unie comme une nappe d'huile. Alors Pinocchio étendit ses habits au soleil pour les sécher, et se mit à regarder de tous côtés pour voir si, par hasard, il n'apercevrait pas à la surface de cette immense étendue d'eau une petite barque avec un homme dedans. Mais après avoir longtemps cherché, il ne vit devant lui que le ciel, la mer et quelques voiles de navires, si lointaines qu'elles n'étaient pas plus grosses que des mouches. « Si je savais seulement le nom de cette île, » se répétait-il, « si je savais au moins si cette île est habitée par des honnêtes gens, c'est-à-dire par des gens qui ne sont pas assez méchants pour pendre les enfants aux branches des arbres. Mais à qui m'adresser ? À qui ? Il n'y a personne ici. » À l'idée de se retrouver seul dans ce pays inhabité, il eut tant de chagrin qu'il se mit à pleurer. Tout à coup, il vit passer à peu de distance de lui un gros poisson qui s'en allait tranquillement à ses affaires, la tête hors de l'eau. Ne sachant comment l'interpeller, Pinocchio lui cria d'une voix bien sonore pour se faire entendre. « Hé là-bas, monsieur le poisson, voulez-vous me permettre de vous dire un petit mot ?»« Deux, si vous voulez, » répondit le poisson qui était un dauphin très poli et comme il s'en trouverait peu dans les autres mers. « Vous me feriez grand plaisir en me disant si dans cette île, il y a des endroits où l'on puisse manger sans risquer de l'être soi-même. » « Assurément, » répondit le dauphin, « vous trouverez même ce qu'il vous faut tout près d'ici. »« Et quel chemin faut-il prendre ?» demanda Pinocchio. « Prends ce petit chemin à gauche et marche toujours devant toi. Tu ne peux pas te tromper. »« Ah, autre chose, » ajouta Pinocchio, « vous qui voyagez en mer toute la nuit et tout le jour, n'auriez-vous pas rencontré par hasard une petite barque « avec mon papa dedans. »« Qui est ton papa ?»« C'est le meilleur des papas, et moi, son fils, je suis le plus méchant des enfants. »« Oh ! » !»« Avec la tempête de cette nuit, » répondit le dauphin, « la petite barque a dû être engloutie. »«
Et mon papa ?»«
À cette heure, le terrible requin a dû l'avaler. » Cet affreux poisson est déjà venu depuis quelques jours répandre la désolation sur nos côtes. « Il est donc bien gros, ce requin ?» demanda Pinocchio qui tremblait déjà de frayeur.
« S'il est gros !» repartit le dauphin. « Pour que tu puisses te faire une idée de sa grosseur, je te dirai qu'il est plus gros qu'une maison de 5 étages et que sa bouche est si vaste et si profonde qu'un train et sa locomotive y passeraient facilement.
« Oh mon Dieu !» s'écria Pinocchio épouvanté, et se rhabillant en hâte, il se retourna vers le dauphin et lui dit
« Au revoir, monsieur le poisson, excusez-moi de vous avoir dérangé, je vous remercie bien pour votre courtoisie. »
Cela dit, Pinocchio prit bien vite le petit sentier et chemina d'un pas alerte, si alerte qu'on eût dit qu'il courait. Au moindre bruit qu'il entendait, il se retournait bien vite pour regarder en arrière. Il avait peur de se voir poursuivi par ce terrible requin, gros comme une maison de 5 étages et qui pouvait avaler un train.
Fin de la 2e piste de la 3e cassette, page 153 de Pinocchio par Carlo Collodi. Change de cassette maintenant.